الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 15 من شهر جماد الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 52 من قراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 4 avril 2015 et nous entrons dans le 52e cours de l'étude de ce livre dans la biographie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم de l'imam ibn Kathir رحمه الله. Et nous avons parlé la fois passée de ce qui était particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nul ne partageait avec lui parmi les prophètes. Car Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dans quelques-uns de ses chapitres de ce livre cité les choses qui étaient propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nul ne partageait avec lui. Puis, il les a divisés en deux, les particularités qu'il avait et que nul ne partageait avec lui parmi les prophètes. Puis, il a cité tout ce qui était sous ce chapitre. Et la seconde partie, ce qui est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nul ne partage avec lui parmi les gens de la communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. القسم الثاني ما كان مختصا به دون أمته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء وهذا هو المقصود الأول فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. Ce qui lui est spécifique par rapport aux musulmans. Donc ici il s'agit de choses que nul ne partageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les musulmans, les gens de sa communauté. On ne parle donc pas des prophètes, si ce n'est qu'il existe certaines de ces choses qui concernent aussi les prophètes. Il dit « sera présenté ici selon le plan adopté dans les ouvrages de jurisprudence, le fiqh, c'est la jurisprudence islamique, ce qui lui est particulier par rapport aux autres musulmans et que partagent en partie avec lui les autres prophètes. » C'est-à-dire que dans ce qui va être cité à partir de ce chapitre, ce sont des choses, comme nous l'avons dit et redit, que nul ne partage avec lui parmi les musulmans, mais qui peuvent être partagées avec autres que lui parmi les prophètes. Notamment la première chose dont va parler Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ainsi, Cheikh Abdul Razzaq a dit, on pourra même diviser ces catégories en trois et dire, premièrement, ce que nul ne partageait avec lui. Deuxièmement, ce que nul ne partageait avec lui parmi les prophètes. Troisièmement, ce que nul ne partageait avec lui parmi les gens de la communauté. C'est-à-dire que les deux catégories citées par Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, on pourrait les diviser en trois et dire ce que vous venez d'entendre. قال كتاب الإيمان فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقر عليه فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. La foi. Tout d'abord, il va citer ces choses qui lui sont spécifiques dans le même ordre retrouvé dans les ouvrages de jurisprudence. Et il commence par ce qu'on appelle al-iman. Et al-iman, quand on cite ce nom de façon absolue, la foi englobe toute la religion. ses fondements et ses branches. Ses fondements, la croyance, les six piliers de la foi. Et ses branches, les règles religieuses et ce qui en découle comme actes et paroles. Les savants ont pris pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu de beaucoup, où il dit « Al-imanu bid'un wa sittuna shu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha ani al-tariq wa al-haya'u shu'batun min al-iman » Ce qui veut dire « La foi est composée de 60 et quelques branches » dans une autre version du hadith, 70 et quelques branches. La plus haute étant la parole « La ilaha illallah ». La plus basse, enlever ce qui gêne de la route. Et la pudeur fait partie de la foi. On retrouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion au fait que la foi englobe ce qu'il y a dans le cœur, ce qui apparaît sur les membres et ce qui est prononcé comme parole. Regardez, « Qawlu la ilaha illallah » La parole « La ilaha illallah » Une parole. Enlever ce qui gêne de la route, imatatu al-adha 'ani at-tariq, c'est une action. Wal haya, et la pudeur, c'est ce qui est dans le cœur. Et le musulman qui éprouve de la pudeur, il ne l'éprouve que de par la croyance qu'il a dans son cœur. Donc lorsque le mot iman est cité de manière absolue, sans condition, il est cité dans un contexte absolu, il englobe toute la religion, ses branches, c'est ses fondements, les croyances et les actes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt avant d'entrer dans cela, nous avons dit que quand la foi est citée de façon absolue, ce qui est voulu, ce sont toutes ces choses. Ici, ce qui est voulu et ce qui va être voulu par Ibn Kathir rahimahullah, c'est ce qui est en relation avec la croyance, la conviction. Dans le chapitre sur l'Iman ici, nous allons parler de choses qui sont en relation avec la conviction. C'est une conviction que le croyant doit avoir par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement, c'est une conviction que nous devons avoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ces choses en dehors de quiconque parmi les gens, bien que cette première a été partagée comme vous allez l'entendre. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était préservé de la faute. Préservé, il était infaillible, sallallahu alayhi wa sallam. Même involontaire. Dans ses paroles et ses actes en rapport avec sa mission prophétique. Naam. Quant aux fautes sans rapport avec sa mission, il ne pouvait persister à les commettre. Il ne prononça aucune parole sous l'effet de la passion. Ses paroles étaient au contraire une révélation qui lui était inspirée. Effectivement, parmi les fondements de la croyance des gens de la sunna, la conviction ferme, sans le moindre doute, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans tout ce qui est religieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Il ne commet aucune erreur. Car dire qu'il commet des erreurs reviendrait à critiquer Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah l'a choisi, il lui a purifié son cœur, l'a guidé, a fait de lui la créature qui connaît Allah mieux que quiconque. Et lui a donné le rang du meilleur des prophètes. Alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures. Il a transmis le message d'Allah tabaraka wa ta'ala du début à la fin. Il n'a eu aucune faille dans la transmission du message et dans tout ce qui est religieux. Il est infaillible, sallallahu alayhi wa sallam. Il existe parmi les fondements des gens de la sunna de croire que seul le prophète était infaillible, alayhi salatu wassalam. Et quiconque croit qu'autre que le prophète est infaillible s'égare de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine de la croyance. Ibn Kathir a cité que le prophète était préservé de la faute, donc infaillible, il était préservé par Allah azza wa jal. même involontaire, attention, il s'agit ici de choses religieuses. Car tout ce qui est de l'oubli ou bien de la distraction, le prophète est un homme comme nous, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui arrive d'oublier et d'être distrait. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte ce hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Innama ana basharun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idha nasitu fadhakkiruni. » Je ne suis qu'un homme comme vous. Je suis un humain comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Ainsi, quand j'oublie, rappelez-moi. Aussi, dans un autre hadith qui est rapporté par al-Bukhari, un jour, les compagnons ont prié derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il a quitté la prière en accomplissant le salut final après avoir accompli deux rak'a, au dhuhr ou au asr. Puis, après cette prière, les compagnons, ou certains parmi eux, lui ont fait la remarque en lui demandant au messager d'Allah, la prière a-t-elle été raccourcie ou bien est-ce une erreur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle n'a ni été raccourcie et ce n'est pas non plus une erreur. Puis, quand le compagnon a confirmé qu'il n'y a eu que deux unités d'effectuer, deux rak'a, il a demandé à un autre compagnon, est-ce vrai? Oui, a dit le compagnon. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a accompli les deux rak'a restantes, ce qui prouve qu'il est sujet à la distraction, à l'oubli, sallallahu alayhi wa sallam, mais pas lorsqu'il s'agit de la transmission du message. Lorsqu'il s'agit de la transmission du message d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est infaillible. Lorsqu'il s'agit de son prêche, de ce qu'il doit enseigner aux gens, il est infaillible. Et en réalité, les erreurs ou bien les distractions dont nous avons parlé, que nous avons lues dans ces hadiths, font partie de la sagesse d'Allah azza wa jal, car elles ont servi à nous apprendre ce qu'on doit faire si nous, il nous arrive de sortir de la prière après deux unités. Si le prophète ne nous l'avait pas appris, alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'on saurait faire? Donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que le prophète ait cette distraction pour nous apprendre à nous, les grands distraits, comment agir le jour de la distraction. Ça ne montre que le caractère complet de sa prophétie et qu'il nous a tout enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les domaines. Et quand il s'agit de transmettre la religion, il est infaillible, sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux fautes, sans rapport avec sa mission, il ne pouvait persister à les commettre, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il ne prononça aucune parole sous l'effet de la passion. Ces paroles étaient au contraire une révélation qui lui était faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle dans la religion, ne parle qu'après la révélation qui lui est faite d'Allah. Si bien qu'il existait des moments où on lui posait des questions, il ne répondait qu'après avoir reçu la révélation. Et il disait à ceux qui lui posaient ces questions, « Patientez, je vous ramènerai la réponse. » Puis Allah révélait des versets, subhanahu wa ta'ala, indiquant dans ceci la réponse. Et ce verset, qui est dans Surat al-Najm, dans la traduction 1, il ne parlait pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Le Cheikh Abd al-Razak a dit, c'est une preuve de l'infaillibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est Allah qui certifie qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc dire après cela qu'il peut commettre une erreur, alors qu'il ne parle qu'après ce qu'Allah lui a légiférer revient à parler sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et quel, combien est loin, ô combien est loin cet égarement, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Cette particularité qui est l'infaillibilité concerne aussi les autres prophètes alayhim salatu wassalam, comme l'a cité ici le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ta'ala. قال فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد لأنه قادر على النص. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, aussi nombre de savants affirment qu'ils n'avaient pas à agir ou à prononcer un jugement après un effort d'interprétation puisqu'ils disposaient de la révélation. Étant donné que c'est le messager d'Allah qui transmet ce qui émane d'Allah tabaraka wa ta'ala comme règle, il n'a pas besoin, selon certains savants, de faire un ijtihad, un effort d'interprétation, évaluer la chose et voir ce qui est le meilleur à faire, quelle est la vie le plus juste. Il n'a pas besoin de le faire puisqu'il prend directement la révélation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abd al-Razzaq a dit, la preuve de ceci est la parole d'Allah Azza wa Jal, et vous la trouvez dans surat Al-Haqqah. Innahu la qawlu rasulin karim. Certes, ceci est la parole d'un noble messager. Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Ce n'est pas la parole d'un devin, d'un poète, et vous ne croyez que très peu. Le Cheikh Abd al-Razzaq a commenté ce verset en disant, ici nous voyons bien que quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du Qur'an, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, il l'a décrit comme étant la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En décrivant son prophète, il a bien cité le nom messager. Quelle est la fonction du messager? Porter un message. Le messager, quand il parle, les mots qu'il prononce ou la lettre qu'il apporte ne sont pas ses mots ou n'est pas sa lettre. Le message qu'il transmet est un message qui émane de quelqu'un d'autre. Allah Azza wa Jalla a dit, c'est la parole d'un messager noble, c'est-à-dire que c'est un noble messager qui transmet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jal a cité le nom de messager quand il a parlé du Coran, pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet la parole d'Allah Azza wa Jal, et donc il est infaillible puisque c'est un messager qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est la parole d'un messager, c'est-à-dire c'est la transmission de la parole d'Allah par un messager. Et ça, vous le retrouvez dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Lorsqu'on le récite, suit sa récitation. Et dans le tafsir, Allah Azza wa Jal parle ici de Jibril qui enseignait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui demandait de l'écouter de la part de Jibril. Et quand Jibril récitait les versets, le prophète devait les réciter, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il les récitait vite, et Allah Azza wa Jal lui a demandé de ralentir dans sa récitation. Ce qui est à retirer de ce point, quand on récite, فَإِذَا قَرَأْنَا, lorsque l'on récite, pourtant ce n'est pas Allah Azza wa Jal ici qui récite le verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril. Mais comme Jibril récite la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui s'est exprimé avec le Coran. Donc Allah Azza wa Jal des fois attribue des actes à des anges, par exemple ici, qui sont le résultat de ces actes à lui subhanahu wa ta'ala. Ça, on le voit dans les ouvrages de Aqida. Donc ce verset est clair et nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Wa qala akharun bal lahu an yajtahid walakin la yajuzu alayhi al-khata. D'autres, au contraire, expliquent qu'il était capable d'un effort d'interprétation, mais qu'il n'était pas sujet à l'erreur. Donc c'est un second avis de ceux qui disent « si, il peut faire un effort d'interprétation, mais de toute façon, il ne se trompe pas. » Sallallahu alayhi wa sallam. « Wa qala akharun, bal la yuqarru alayhi. » Et d'autres ont dit, d'autres encore affirment, que s'il pouvait lui arriver de commettre une faute, il ne pouvait persister à les commettre sans revenir dessus et se corriger. Et pour conclure, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit فَعَلَى الْأَقْوَالِ كُلِّهَا هُوَ وَاجِبُ الْعِصْمَةِ لَا يُتَصَوَّرُ اسْتِمْرَارُ الْخَطَأِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ سَائِرِ أُمَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُ مُنْفَرِدًا. فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُمْ بَرَكَ اللَّهُ فِيكَ عَلَى كُلٍّ مِّنْهُمْ munfarida. Quelle que soit la vie retenue, on peut dire qu'il était préservé de la faute dans la mesure où il ne pouvait en commettre continuellement sans se corriger. Donc peu importe la vie retenue, ce qui est à conclure, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Sallallahu alayhi wa sallam. فأما إن اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم. Contrairement aux membres de sa nation qui individuellement peuvent commettre des fautes sans pour autant se corriger par la suite. Ceci est la différence entre les gens de la communauté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils peuvent commettre des fautes. Et quand ils commettent des fautes, il arrive qu'ils ne reviennent pas sur ces dernières. En revanche, comme nous l'avons vu précédemment, les musulmans ne peuvent adopter un avis sur lequel un consensus s'est formé et qui soit erroné. C'est-à-dire que lorsque les musulmans sont unanimes sur un sujet, il est inévitable ou bien il est indéniable que ce sujet, que cet avis est juste. C'est-à-dire que les musulmans ne peuvent pas s'unir sur quelque chose de faux. La preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté n'est pas unanime sur un égarement. Donc le hadith est clair. Wa min dhalika ma dhakarahu Abu al-Abbas ibn al-Qas annahu kullifa wahdahu min al-ilmi ma kullifa an-nasu bi ajma'ihim. واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. Par ailleurs, donc c'est une deuxième particularité qu'on va citer ici. Par ailleurs, comme l'affirme Abu al-Abbas ibn al-Qas, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fut accordé un savoir équivalent à celui de tous les hommes réunis. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la science que tous les hommes réunis recherchent. Si tous les savants se réunissent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toute leur science. À l'appui de cette opinion, Al-Bayhaqi rapporte ce hadith d'Abdullah ibn Umar, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith il est rapporté par Muslim, alors que j'étais endormi, me fut apporté un bol de lait, c'est-à-dire en rêve. Ici il parle de ce qu'il a vu en rêve. Alors que j'étais endormi, me fut apporté un bol de lait. J'en bus au point d'être totalement rassasié. Puis je donnais le reste à Omar ibn al-Khattab. La traduction n'est pas complète. Il dit qu'il a tellement été rassasié qu'il voyait le lait sortir de ses ongles. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, a dit, cela nous montre que dans ce rêve, il a bu du lait. Et le lait a pénétré tout son corps. Il n'a laissé aucune place, aucun endroit de son corps sans y entrer. À un point où il sortait de ses ongles. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis je donnais le reste à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Les compagnons demandèrent, comment as-tu interprété cela au messager d'Allah? Il répondit, le lait représente le savoir. Car la vision du lait en rêve, c'est la science. Donc dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu tellement de lait qu'il en était rassasié à un point où le lait coulait de ses ongles. Et ce qu'il restait du lait qu'il avait, car lui était complètement rassasié, il l'a donné à Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Ce qui veut dire que lui, comme il a expliqué que ce qu'il a vu comme lait, c'était la science, il a été, si on peut le dire ainsi, rassasié en science sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui restait, car lui avait rassasié, a été rassasié en science, il l'a donné à Omar, il l'a enseigné à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Dans un autre hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un autre rêve dans lequel il a vu des gens portant des qamis. Et le qamis, c'est le vêtement que vous voyez devant vous. Il a vu des gens porter les qamis. Il dit, j'ai vu des gens porter le qamis jusqu'à la poitrine, d'autres jusqu'à tel endroit, d'autres jusqu'à tel endroit. Donc le qamis qui s'arrête ici, un autre qui s'arrête plus bas, un autre qui s'arrête plus bas. Et il dit, j'ai vu Omar, radiyallahu anhu, son qamis traîner au sol. Les compagnons lui ont demandé, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le qamis? C'est-à-dire, qu'est-ce que le qamis dans le rêve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le qamis représente la religion dans le rêve. La religion, c'est-à-dire les actions pieuses. Cheikh Abdelrazak a dit, en unissant les deux hadiths, on voit le mérite de Omar si bien dans la science, tant dans la science que dans les actions pieuses. Et ceci nous montre que Omar radiallahu ta'ala an avait des particularités par rapport aux autres. Et également les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiallahu ta'ala anhum ajma'in, avaient tous cette particularité qui était la science et les actions pieuses. C'est pour cela qu'on retrouve dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Accrochez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés. طيب. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل أي هو موجود هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى. Autre particularité du prophète صلى الله عليه وسلم, sa capacité à voir ce que les gens autour de lui n'étaient pas en mesure de voir. Et les hadiths dans ce sens sont très nombreux. Ainsi, il est rapporté dans les recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après Aïcha radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, voici Jibril qui te salue. C'est-à-dire, Jibril est ici. Donc, il était avec son épouse Aïcha et Jibril était là. Elle ne le voyait pas, mais le prophète le voyait, sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, salue ton épouse de ma part. Allahu Akbar. Les savants ont dit, ceci montre le mérite de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que Jibril a salué Aïcha. Et dans un autre hadith, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a salué Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et après cela, on voit Rawafid, les chiites de la mouvance Rafida, qui insultent Abu Bakr, Omar, en disant qu'ils sont des mécréants, et Aïcha radiallahu ta'ala anha et autres parmi les compagnons. Jibril a donc salué Aïcha radiallahu ta'ala anha. Puis Aïcha a répondu, que le salut soit sur lui. Messager d'Allah, tu vois des choses que nous ne pouvons voir. وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Aïcha toujours rapporte dans le hadith sur l'éclipse que l'on trouve dans les deux recueils authentiques ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Ici, ce n'est que un passage d'un long hadith qui a été cité. Ce hadith, on le retrouve dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim, c'est l'histoire de l'éclipse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu qu'une seule fois l'éclipse dans sa vie. Et lorsqu'il a accompli la prière de l'éclipse, sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce hadith, il a vu des choses, alayhi salatu wa sallam, notamment le paradis. Il a vu l'enfer. Il a même dit à ses compagnons, si j'avais pris une grappe de fruits du paradis, vous aurez eu de quoi manger jusqu'au jour du jugement dernier. La ilaha illallah. Ce hadith, il est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pendant la prière, dans une prière, peut-être celle-ci ou une autre, en tout cas a dans une prière attrapé Iblis en pleine prière. Il l'a vu et il l'a attrapé, puis il l'a relâché. À la fin de la prière, les compagnons lui ont dit: « Ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire des gestes inhabituels, des gestes qu'on ne te voit pas faire dans tes prières quotidiennes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « J'ai vu Iblis, je l'ai attrapé et l'ai étranglé. Et si je l'avais attaché sur un arbre, les enfants de Médine l'auraient humilié en jouant avec lui. Mais je me suis souvenu de quel prophète ? De Suleyman. Je me suis souvenu de Suleyman quand il a dit: « Wahhab li mulkan la yambari li ahadin min ba'di » et « Fais-moi don d'un royaume que tu ne donneras pas à quelqu'un après moi. » Et parmi ce qu'Allah a donné à Suleyman, c'est le fait que les djinns étaient à son service. Donc il s'est souvenu que Suleyman a demandé à Allah Azza wa Jal cette particularité, il a lâché Iblis sallallahu alayhi wa sallam. وقال البيهقي أن الحاكم لا حدثنا الحاكم قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله والله لوددت أني شجرة تعضد ورواه ابن ماجه قال البيهقي يقال إن قوله شجرة تعضد من قول أبي ذر والله أعلم. البيهقي rapporte d'après الحاكم d'après Mohammed ibn Ali ibn Duhaym, d'après Ahmed ibn Hazim al-Ghifari, d'après Ubaydullah ibn Musa, d'après Israël, d'après Ibrahim ibn Hajar, d'après Mujahid, d'après Mouarriq, d'après Abu Dhar. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Car quand on a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous vient par une chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission, ce sont tous les narrateurs. En commençant par celui qui a écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a narré ce hadith, il l'a rapporté à quelqu'un, ce quelqu'un l'a rapporté à un autre, ce troisième à un quatrième et ainsi de suite, jusqu'à ce que le hadith est compilé dans un livre. Cette chaîne de transmission, c'est ce qui nous permet d'évaluer l'authenticité ou la faiblesse du hadith. Quoi qu'il en soit, à la fin, Abu Dhar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lut entièrement la sourate Al-Insan avant de dire: je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel craque sous le poids des anges. Le terme cité en arabe, attati sama'u wa huqqa laha an ta'it, atta. Et ce qu'on appelle Al-Atitu dans la langue arabe, c'est le son qui sort de la chamelle enceinte. Elle a tellement un poids lourd dans son ventre qu'il y a un son qui sort d'elle, montrant qu'elle est quelque peu gênée ou qu'elle a du poids et elle a une lourdeur à porter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le ciel a fait ce bruit. Le ciel a fait ce bruit. Il dit: et il est en droit de le faire. Pourquoi ? En effet, il n'y a pas d'espace, aussi petit soit-il. Et le terme cité en arabe, il n'y a pas l'espace d'un doigt. Il n'y a pas l'espace d'un doigt sans qu'un ange n'y pose son front en prosternation devant Allah Azza wa Jal. Si Allah nous permettait de voir le ciel et ses habitants, on ne verrait que des anges. On ne verrait que des anges. Il n'y a pas l'espace d'un doigt sans que ne s'y trouve un ange prosterné devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. On apprend ici que les anges ont des fronts. Car ces choses-là, on ne les affirme qu'avec des textes. Et Allah sait comment ils sont, subhanahu wa ta'ala. Nous, on prend l'information qui nous vient du hadith comme elle est. C'est la aqidah de Ahl Sunnah. Il dit, je jure par Allah que si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien peu et pleureriez beaucoup. Vous ne pourriez alors plus jouir de vos femmes sur vos couches et vous iriez sur les routes implorant le secours d'Allah. Par Allah, j'aimerais être l'arbre, un arbre que l'on taille. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah. Si ce n'est que la dernière phrase, par Allah, j'aimerais être un arbre que l'on taille, c'est la parole du compagnon Abu Dharr, radiyallahu ta'ala an, et ce n'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bayhaqi affirme, il est dit que les paroles, par Allah, j'aimerais être un arbre que l'on taille, auraient été prononcées par Abu Dharr, mais Allah en est mieux informé que quiconque. ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا المترفون هم الأغنياء أصحاب الأموال ودليله من الكتاب العزيز ظاهر وهو قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa nation, Allah lui a ordonné de préférer l'au-delà à ce bas monde. Il lui était donc interdit de regarder ce dont jouissaient les gens aisés, comme l'indique clairement le Coran. Voici la traduction du verset cité et voulu. Et ne porte point tes yeux sur ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains d'entre eux, comme charme de la vie présente, afin de les éprouver par cela. La subsistance d'Allah est bien meilleure et plus durable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait préférer l'au-delà à ce bas monde, sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم شعر قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. Autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa nation, il ne lui convenait pas d'apprendre la poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poète, il ne connaissait pas la poésie sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il connaissait la poésie, ils auraient dit qu'il est poète. Alayhi salat wa salam. Ils ont dit qu'il est poète. Mais le prophète ne connaît pas la poésie. Et vous vous souvenez que dans un passage de la Sira, un des plus grands poètes arabes est venu écouter le Coran, qui a été la cause de sa conversion. Il a dit, je suis le plus grand poète, je connais la poésie. Et ceci n'est pas une poésie, c'est la parole d'Allah. Il s'est converti à l'islam. Le prophète n'était pas un poète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans surat As-Safat, وَقَالُوا أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Et ils dirent, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou, Majnoun. Majnoun est celui qui a perdu la raison. Certains ont dit, ceci montre la bêtise de Quraysh. Car comment pourrait-il citer et prononcer des vers de poésie, et la poésie demande des règles, des rimes, que les paroles ont des sens, qu'elles soient cohérentes, et donc celui qui a perdu la raison, comment est-ce qu'il peut faire? Comment est-ce qu'il peut prononcer de telles paroles? Donc même quand ils ont dit qu'il est poète, alayhi salatu wassalam, ils ont cité quelque chose qui montre leur bêtise. Poète fou, qui a perdu la raison. Taïeb. Naam. Allah a dit dans surat Yassin, le sens du verset, Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne saurait d'ailleurs lui convenir. Il ne convient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire de la poésie. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي. إلا أن هذا الحديث تكلم فيه المحدثون بالضعف. Par ailleurs, Abdullah ibn Umar rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Si je bois un antidote » et le terme cité c'est « tiryaq » et « tiryaq » c'est le remède contre un poison dans lequel on trouve de la peau de serpent. Et c'est quelque chose qui est interdit. « Si je bois un antidote, porte une amulette ou compose des vers » c'est qu'alors mes actes m'importent peu. Ici, ce qui était voulu dans ce hadith, mais l'authenticité a été discutable, c'est que si je fais ces actes-là, qui sont tous interdits les uns les autres, alors peu importe mes actions. Mais l'authenticité du hadith a été jugée faible, notamment par l'imam al-Albani, comme vous le voyez en dessous, rahimahullah. Tayyib. فلهذا قال أصحابنا إنه كان يحرم عليه تعلم الشعر ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتنة. Aussi les tenants de notre école affirment qu'il était interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre la poésie. Quand Ibn Kathir dit les tenants de notre école, il parle de l'école Shafi'i, comme on l'a déjà vu. Donc il disait que le prophète n'avait pas le droit d'apprendre la poésie sallallahu alayhi wa sallam. Wa min dhalika annahu lam yakun yuhsin al-kitaba. Qalu wa kana yahrumu alayhi dhalika qala Allah ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil. Wa qala ta'ala وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود إلا ما رواه البيهقي وهو ضعيف من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ قال مجالد فذكرت ذلك للشعبي فقال قد صدق قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك يحيى هذا ضعيف ومجالد فيه كلام خلاصة أنه ضعيف سقط نعم. Autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas écrire, l'écriture lui étant selon certains interdite. Donc, le prophète était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire, et ceci jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez quand il envoyait des messages aux empereurs pour les appeler à l'islam, il dictait et quelqu'un écrivait pour lui. Puis lui, quand il signait, il ne signait pas en écrivant, mais il le faisait avec l'anneau qu'il portait sur son doigt et dans lequel était gravé Mohammed Rasulullah, puis il appuyait sur la feuille pour que ça joue le rôle du tampon, si on peut le dire comme cela. Il ne savait donc ni lire ni écrire. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, selon le sens rapproché du verset, « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. » Allah Azza wa Jal dit dans l'autre verset, selon le sens rapproché, « Avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui reniaient la vérité auraient eu des doutes. » Cheikh Abd al-Razzaq a dit, dans le premier verset, Allah Azza wa Jal a mentionné le terme « illettré ». Dans le deuxième verset, il nous a expliqué ce qui est voulu. Qu'est-ce qui est voulu ? Tu ne récitais aucun livre, c'est la lecture, il ne savait pas lire. alayhi salatu wasalam, et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Le prophète était bien donc illettré, sallallahu alayhi wa sallam. Certains prétendent cependant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit à écrire avant de mourir, mais leur affirmation, qui ne repose sur aucune preuve, n'est pas acceptable. Reste qu'Al-Bayhaqi rapporte d'après Abu Aqil Yahya ibn al-Mutawakkil, d'après Mujalid, d'après Aoun ibn Abdillah, d'après son père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant d'avoir appris à écrire et à lire. Et ceci est faible. Donc Ibn Kathir rahimahullah l'a jugé faible avant même de le citer. Mujalid affirme avoir rapporté ces paroles à Sha'bi, qui est un grand imam, qui dit: il a dit vrai, j'ai d'ailleurs entendu certains des tenants de notre école affirmer cela, c'est-à-dire que ce n'est pas authentique. Néanmoins, Abu Aqil Yahya ibn al-Mutawakkil n'est pas digne de foi. Quant à Mujalid, les savants du hadith se sont exprimés à son sujet. Taïb. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه صلى الله عليه وسلم كتب يوم صلح الحديبية فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وتبرأوا من قائله على رؤوس المنابر وعملوا فيه الأشعار وقد غره ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله الحديث وقد علم أن المقيد يقضي على المطلق يعني الحديث هذا مطلق لكن هناك رواية ثانية تقيده وتفسره ففي الرواية الأخرى قال فأمر عليا فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Un savant du Maghreb prétend même que le prophète صلى الله عليه وسلم écrivit les clauses de la trêve d'Al-Hudaybiyya. Mais son affirmation fut réfutée avec force par les savants qui, sur les minbars ou par des vers, le désavouèrent. Ce savant, c'est Abu Walid Al-Badi Al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, et sa biographie a été faite par l'imam Al-Dhahabi, et dans ce sujet, il a fait cette erreur, rahimahullah, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à lire et à écrire, et que c'est lui qui a écrit les clauses du pacte d'Al-Hudaybiyya. Et quand les savants de son époque ont entendu cette parole, ils se sont désavoués de lui, c'est-à-dire de cette parole, ils se sont désavoués de la parole qu'il a prononcée, et ils l'ont fait sur les mimbars, sur les manabir, et certains l'ont fait avec des vers de poésie, pour dire que sa parole était caduque, ou bien était fausse. Ce savant du Maghreb fut trompé par certaines des versions d'Al-Bukhari qui mentionnent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à écrire. Voici les termes de la trêve acceptée par Muhammad ibn Abdullah. Donc dans la version d'Al-Bukhari, on nous dit le messager d'Allah a écrit. Et ça revient à ce qu'on a dit auparavant. On dit qu'il a écrit car c'est lui qui a commandité, c'est lui qui a ordonné. Tout comme un gouverneur ordonne à son armée de s'attaquer à un peuple, qu'est-ce qu'on va dire? Si l'armée a tué le peuple, on va dire ce gouverneur a tué ce peuple. Ce n'est pas lui qui a œuvré avec sa main, c'est le peuple, mais c'est lui qui a commandité. Donc c'est lui qui est responsable. Et c'est ce qui est voulu dans le hadith d'Al-Bukhari, quand on dit que Mohammed a écrit. La preuve en est ce qui suit. L'on sait en effet qu'un texte général, mutlaq, il convient de préférer un texte qui en délimite le champ et le précise. Muqayyad. Il y a des textes qui sont absolus et d'autres dans le même contexte mais qui délimitent le champ et donc qui nous montrent ce qui est voulu par le premier texte. C'est le cas ici. Or, dans une autre version, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali d'écrire. Donc, quand on dit que c'est Muhammad alayhi salatu wa sallam qui a écrit, c'est-à-dire c'est lui qui a commandé d'écrire. Et les mots sont les siens, c'est pour ça qu'on a dit c'est lui qui a écrit. Et quand il va recevoir la lettre, celui qui reçoit la lettre va dire c'est la lettre de Mohammed. Mohammed m'a écrit, il ne va pas dire c'est Ali qui m'a écrit. Voici les termes de la trêve acceptée par Mohammed ibn Abdullah. ومن ذلك أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره فقد تواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابيا، فهو في صحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأقوع وعبد الله بن عمرو، ولفظه: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc, une autre particularité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment sur lui commet un péché bien plus grave que celui qui ment sur une autre personne. Ainsi, il est rapporté par une multitude de compagnons, c'est ce qu'on appelle un hadith mutawatir. Il a été rappelé, il a été rapporté par un nombre de compagnons tellement grand que son authenticité est indiscutable. Et c'est le hadith qui a le plus haut degré de l'authenticité, le hadith dit mutawatir. Plus de 80 d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui lui attribue sciemment, intentionnellement, ce qu'il n'a pas dit ou a fait, a mérité sa place en enfer. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui ment intentionnellement, volontairement sur moi, qu'il prépare sa place dans le feu. Ce hadith se trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Ali, Anas, Abu Huraira, Al-Mughira ibn Shu'ba, tous des compagnons. Il est rapporté par Al-Bukhari d'après Zubair ibn Awam, Salamat ibn Al-Aqwa, Abdullah ibn Amr, en ces termes: transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset, et il n'y a pas de mal à rapporter les paroles des fils d'Israël, mais quiconque m'attribue délibérément ce que je n'ai pas dit a mérité sa place en enfer. Donc le hadith est clair. وفي مسند أحمد عن عثمان وابن عمر وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع وزيد بن أرقم وعند الترمذي عن ابن مسعود ورواه ابن ماجة عن جابر وأبي قتادة وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني والبزار وابن مندة وغيرهم من المتقدمين وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط، فقال الشيخ أبو محمد: يكفر أيضا، وخالفه الجمهور. ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين؟ فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قال: لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي ألا تقبل رواية من كذب عليه فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. ابن كثير رحمه الله تعالى dit: le hadith se trouve également dans le musnad de l'imam Ahmad, rapporté par Uthman ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Wathilat ibn al-Asqa', Zayd ibn al-Arqam et autres, les compagnons. Il est également rapporté par At-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Mas'ud et par Ibn Majah d'après Jabir et Abu Qatada. Donc ici, il nous montre que ce hadith, il est indiscutable dans l'authenticité, tellement le nombre de rapporteurs parmi les compagnons est grand. En outre, nombre de savants du hadith lui ont consacré une étude particulière, à l'image notamment d'Ibrahim al-Harbi, de Yahya al-Sa'id et al-Tabarani, ainsi qu'al-Bazar ibn Manda parmi les savants anciens, et Ibn al-Jawzi et Yusuf ibn al-Khalil parmi les contemporains. Plus d'un savant du hadith, comme le grand savant Ibn al-Salah ainsi que l'imam al-Nawawi, affirme clairement qu'il s'agit d'un hadith mutawatir, ce qui est juste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les savants de l'islam affirment unanimement qu'attribuer volontairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles qu'il n'a pas prononcées, tout en considérant que cela est licite, est une forme de mécréance. Ils disent, et ceci à l'unanimité, que celui qui dit « le prophète a dit » et il ment, il sait qu'il ment, et il a pour croyance que c'est qu'il est licite de faire ce qu'il fait, il sort de l'islam. Ceci fait partie des annulatifs de l'islam. Par contre, il y a une autre question qui est la suivante. Ces derniers divergent seulement sur le cas de celui qui agit ainsi volontairement. Il ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, volontairement, mais sans considérer cela comme permis. Il sait que c'est interdit. À ce sujet-là, ils ont divergé. Le Cheikh Abu Muhammad فقال الشيخ أبو محمد يكفر أيضا وخالفه الجمهور. Le Cheikh Abu Muhammad a dit ou affirme que celui-ci est également tombé dans la mécréance, mais la majorité des savants est d'un avis contraire. La majorité des savants n'ont pas cet avis-là. Ils disent qu'il est pécheur, pervers, qu'il a désobéi à Allah Azza wa Jal et a commis un péché majeur, sans pour autant devenir mécréant. Une autre question. Si celui qui agit ainsi se repent, ses narrations peuvent-elles être acceptées? Celui qui ment sur le prophète, alayhi salatu salam, il rapporte des paroles et dit « le prophète a dit ». Ça, c'est dans la science du hadith. Il y a une question. Un des gens était connu pour ses mensonges sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se repent à Allah. Est-ce qu'après son repentir, les savants du hadith vont accepter qu'il rapporte des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, en disant « il s'est repenti, donc maintenant on peut l'accepter » Deux avis ont été émis à ce sujet. Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in et Abu Bakr al-Humaydi, grands savants de la sunna, furent d'avis que ces narrations ne pouvaient être acceptées conformément aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la science profonde. Mentir sur un autre que moi n'est pas aussi grave que m'attribuer mensongèrement ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que mentir sur moi n'est pas comme mentir sur autre que moi. Quiconque m'attribue délibérément ce que je n'ai pas dit a mérité sa place en enfer. Selon ces savants, il est bien connu que celui qui ment sur un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commet un péché et un acte de désobéissance. Il en va de même de celui qui attribue mensongèrement des paroles ou des actes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Or, les narrations de celui qui a menti sur un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis s'en est repenti sont acceptées. Les savants de l'islam sont unanimes à ce sujet. Par conséquent, puisqu'il faut bien différencier le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam du mensonge sur un autre que lui, il convient de ne pas accepter les narrations de celui qui attribue mensongèrement des paroles ou des actes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour résumer, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa kadhibun alayya ka kadhibin ala ghayri » Un mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge sur un autre. Ils disent, il va forcément découler de cette parole les règles qui s'y rapportent. Quelles sont ces règles-là? Celui qui ment sur un homme, il se repent. S'il ramène un hadith, on peut prendre de lui, car il n'a pas menti sur le prophète, alayhi salatu wasalam. Celui qui ment sur le prophète, sallallahu alayhi wasalam, puis se repent, son repentir est accepté. Mais puisque un mensonge sur le prophète alayhi salatu wasalam n'est pas comme un mensonge sur quelqu'un, donc c'est tout le temps différent, ça doit être différent aussi dans ce qui découle. Qu'est-ce qui découle du mensonge sur quelqu'un? Le repentir est accepté. Donc ce qui va découler du mensonge sur le prophète alayhi salatu wasalam doit être différent de ce qui va découler sur le du mensonge de quelqu'un. Vous avez compris? Ça, c'est la science des ulama de la sunna. Mais il y a une parole qui est celle de la majorité. وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ قُصَارَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَفَرْ وَمَنْ تَابَ مِنَ الْكُفْرِ قُبِلَ تَوْبَتُهُ وَرِوَايَتُهُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. Et c'est l'avis qu'a retenu Ibn Kathir. Il dit néanmoins, la majorité des savants de l'islam considèrent que les narrations de celui qui a menti sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puis s'en est repenti sont acceptables. Ils expliquent en effet qu'au pire, celui-ci peut être taxé de mécréance, selon les avis cités tantôt. Or, le repentir de celui qui renonce à la mécréance est accepté, de même que ses narrations. Au pire, on va dire que, selon certains, il mécroit. Et celui qui mécroit, s'il se repent, il est accepté. Son islam est accepté. Il en est de même pour ses narrations. Ibn Kathir dit, c'est ce dernier avis qui est correct. ومن ذلك أن من رآه في المنام فقد رآه حقا كما جاء في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي تمام الحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا كما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها والله تعالى أعلم. Autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque le voit en rêve le voit sous son apparence réelle, conformément à ce hadith prophétique. Car Satan ne peut prendre mon apparence. Le hadith entièrement est le suivant. Celui qui me voit en rêve m'a vraiment vu, car le diable ne peut pas prendre mon apparence. Il dit néanmoins, il y a une condition que rapporte l'imam al-Nasa'i d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que celui qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve le voit sous sa forme réelle, celle qui était la sienne durant sa vie terrestre et que décrivent les hadiths. Donc ça, c'est une condition indispensable. Sinon, tout le monde va dire « j'ai vu le prophète en rêve ». Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui vivent dans la désobéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala, disent « j'ai vu le prophète en rêve ». Et ils se croient élus par Allah, azza wa jal, alors qu'en réalité, il est dupé, trompé, égaré par Shaitan. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « celui qui m'a vu en rêve m'a vraiment vu, car le diable ne peut pas prendre ma forme ». Certes, il ne peut pas prendre sa forme, celle qui est connue dans les hadiths, mais il peut prendre une autre forme. Il peut venir sous la forme d'un homme qui a une barbe, qui a des longs cheveux, et dire « je suis le prophète, tu es pardonné, tu es guidé », comme on le retrouve chez les soufis, « wal'iyadhu billah ». Il voit le prophète tous les jours. Plus encore, certains disent qu'il le voit en vrai. Il vient devant eux et leur dit, alors qu'il n'est pas venu voir Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, mais il est venu voir ces gens-là. Regardez l'égarement. Donc il faut absolument une condition pour distinguer le vrai du faux. Quelle est cette condition? Celle qui est rapportée par Ibn Majah ici, qui est attribuée à Abdullah ibn Abbas, et on l'a vu dans le dernier chapitre du livre, l'avant-dernier chapitre du livre Al-Shama'il, que Abdullah ibn Abbas disait à chaque fois que quelqu'un venait le voir, j'ai vu le prophète en rêve, il lui disait décris-le-moi. S'il décrivait ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il disait oui, tu l'as vu. Mais s'il décrivait autre, il lui disait tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tu vois l'un d'entre ces gens-là, l'un d'entre eux, cigarette à la main, il te dit « hier, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. »« Wa la hawla wa la quwwata illa billah. » Il n'a vu que le shaitan. Il n'a pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, les savants de l'islam sont unanimes pour dire que les paroles que l'on entend le messager sallallahu alayhi wa sallam prononcé dans un rêve ne doivent pas être mises en pratique? Ça, c'est une question. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on le voit en rêve, avec sa véritable description, on l'a vraiment vu car lui, il a affirmé dans un hadith. Il découle une question. Est-ce que si tu vois le prophète en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, te dire des choses, comme il est cité ici, est-ce que tu le prends comme un hadith? Donc chez les savants du hadith, il disait, est-ce que celui qui a vu le prophète en rêve, alayhi salatu wa sallam, peut rapporter comme on rapporte un hadith? Est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on doute du prophète, alayhi salatu wa sallam? Loin de là. Mais c'est parce que cette personne qui rêve peut se tromper. Donc ce n'est pas comme un hadith. Cette personne qui rêve peut se tromper. Et ce qu'elle a vu, c'est pendant le sommeil. Et pendant le sommeil, l'âme, elle est faible, comme va le dire ici Ibn Kathir, rahimahullah. En effet, les termes ne peuvent être rapportés que de façon imprécise. Mais Allah le Très-Haut, on est mieux informé que quiconque. Donc, voici pour cette question. ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس ابن القاص في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك قال أبو العباس وليس كذلك غيره حتى يموت لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم قال البيهقي كذا قال أبو العباس وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم المطلق محمول على المقيد انتهى كلامه قلت أي ابن كثير وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه وما كان ينبغي أن نذكره لولا ما قد يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى والله تعالى أعلم. Il va citer une autre particularité, mais il la cite parce que les savants l'ont cité, mais il va dire que le meilleur était de ne pas citer cette question. Il n'y a pas d'utilité à citer cette question. Il dit, autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que rapporte l'érudit Abu Bakr al-Bayhaqi dans son Sunan al-Kabir, c'est son recueil de hadith, d'après Abu al-Abbas ibn al-Qas, qui interprète les paroles d'Allah selon le sens rapproché, si tu associais d'autres divinités à Allah, tes actes deviendront nuls. Allah Azza wa Jalla dans le verset a dit au prophète alayhi salatu wa salam, si tu commets l'association, tes œuvres deviendront nulles, vaines, elles seront annulées, rejetées, effacées. De cette manière, or, les autres, parmi les gens, ne perdent le bénéfice de leurs œuvres que s'ils meurent en étant polythéistes, conformément à ces paroles du Très-Haut, le sens rapproché. Or, quiconque parmi vous renie sa religion et meurt en mécréant, perdra le bénéfice de ses œuvres. Donc, certains savants ont dit que ce que Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu commets l'association, tes actes sont annulés par Allah, immédiatement. Alors que les autres, s'ils commettent l'association, leurs actes ne sont annulés par Allah Azza wa Jal que s'ils meurent sur le shirk. Cheikh Abd al-Razak a dit, en réalité, cette deuxième question-là, de dire que leurs actes ne sont annulés que s'ils meurent sur le shirk, il dit, elle est discutable. Car le simple fait de commettre du shirk akbar annule tes actes. Le simple fait de commettre le shirk majeur annule tes actes. Quoi qu'il en soit, cette question, Ibn Kathir a dit qu'il ne fallait pas la citer. Al-Bayhaqi affirme ce qui suit. Abu al-Abbas interprète ce verset de cette manière, mais d'autres que lui expliquent que ces paroles de la sourate Az-Zumar ne sont pas adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En outre, les textes à la portée générale, comme ce verset, sont précisés par les textes qui en délimitent le champ de la sourate Al-Baqarah. Et dans le verset d'Al-Baqarah, il y a la délimitation de la portée générale qu'on retrouve dans le premier verset. Donc c'est une question qui a été discutée par les gens de science. Nous aurions très bien pu nous passer de ce dernier point sans réel intérêt. Nous ne l'avons d'ailleurs mentionné que par crainte que l'on pense à tort que nous en avons omis d'autres avec celui-ci. Sans cela, il aurait été préférable de le passer sous silence. ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه فيكون من باب اللمز ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله بايعه فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله ثم بايعه ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. Dernière particularité, autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres musulmans. Il ne lui convenait pas de faire un signe des yeux pour indiquer autre chose que ce que laissaient entendre ses paroles. On appelle cela en arabe « Kha'inatul a'yun », la trahison des yeux. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Ghafir « Ya'alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi soudur » Il connaît la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. La trahison des yeux, c'est que tu bouges tes yeux pour indiquer à quelqu'un qui se trouve à tes côtés quelque chose discrètement, qui est contraire à ce que tu dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ce comportement. À l'appui de ce que nous venons de dire, ce récit concernant Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, cet homme qui figurait au nombre de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis à ses compagnons d'exécuter lors de la conquête de la Mecque. Vous souvenez, 4 personnes devaient être exécutées même si elles étaient attrapées, accrochées au rideau de la Kaaba. Parmi ces personnes, Abdullah ibn Abi Sarh. Et le jour de la conquête de la Mecque, il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Uthman ibn Affan, qui était son frère de lait, et qui est venu intercéder pour lui pour que le prophète alayhi salatu wa sallam accepte son allégeance et donc renonce à l'exécuter. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? Son frère de lait, Uthman ibn Affan, se présenta alors avec lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel il dit « Ô messager d'Allah, accepte son allégeance. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marqua alors un temps d'arrêt dans l'espoir qu'un des musulmans présents se lève et le tue. Donc d'un côté, le prophète voulait qu'il soit exécuté. De l'autre côté, ce n'est pas n'importe qui intercède, c'est Uthman ibn Affan. Il a épousé 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une après l'autre, pas en même temps. Et donc il était aimé et son intercession a un poids chez le prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a cet individu devant lui. Il veut qu'il soit exécuté pour le mal qu'il a commis auparavant. Uthman vient et dit au messager d'Allah, accepte son allégeance. Donc s'il accepte, on ne doit pas le tuer. Le prophète ne peut pas faire un signe avec ses yeux à ses compagnons. Il attend dans l'espoir qu'un compagnon comprenne qu'il doit le tuer. Et il attend, mais il ne regarde pas les compagnons à côté de lui. Et il attend, Uthman continue, le prophète attend, Uthman continue, radiyallahu anhu. Le prophète prend sa main, accepte son allégeance, et alors il se retourne et dit à ses compagnons ce qui suit. Puis il accepta finalement son allégeance avant de dire à ses compagnons, « N'y avait-il pas parmi vous un homme perspicace ?» Quelqu'un qui comprend vite les manières d'agir de l'autre, qui, en me voyant retenir ma main, se serait levé pour le tuer. Ils répondirent, « Ô messager d'Allah, si seulement tu nous avais fait signe. » Il répondit, « Il ne convient pas à un prophète de tromper par un signe des yeux. » sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi s'achève le chapitre en relation avec la foi, et au prochain cours on entrera dans le chapitre suivant. Donc il restera à peu près 5 ou 6 cours avant de terminer la lecture de ce livre, inshallah ta'ala. On demande à Allah de nous accorder son aide et son assistance jusqu'à la fin de ce livre, et de faire qu'il soit parmi les plus belles actions avec lesquelles on s'est rapproché de lui, une cause du pardon de nos péchés. Allah ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.